Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Première semaine, on a pogné le rhume. Deuxième semaine, on a pogné la COVID. Troisième semaine, on a pogné la gastro. Après ça, on a pogné la diarrhée. Ça n'a pas rapport avec la garderie. On est allé manger dans un restaurant à Sorel. Après ça, on a pogné la pneumonie. Puis dernièrement, je l'ai retiré de la garderie parce qu'il y avait une épidémie de pieds, mains, bouche. Puis j'ai comme, mon Dieu, faites-vous des bricolages ou des orgies, est-ce que... Parce que...
Notre invitée ce matin, Rosalie Vaillancourt, bonjour.
Bonjour, Paul.
Est-ce que l'enfant va bien? Est-ce que vous transportez ici en studio des microbes qui risquent de contaminer l'ensemble de l'équipe?
Assurément.
Merci, c'est terminé pour l'entrevue.
Non, mais elle a dormi dans le lit cette nuit parce qu'elle était malade encore.
Encore?
Ah, c'est infernal.
Mais vous allez parler beaucoup de l'enfant pendant votre spectacle.
Je dirais le un quart du temps.
Ben quand même.
Oui, quand même. C'est sûr que c'est un sujet central. C'est la première année de vie d'une jeune maman qui se rend compte que maintenant il y a des responsabilités qui arrivent. T'sais. Donc c'est sûr que je parle un peu de la maternité puis de l'enfant, mais après ça va vraiment de tout bord de côté.
Quelles sont les découvertes les plus troublantes que vous avez faites comme mère?
Mon Dieu, il y en a plusieurs, mais je pense que le manque de sommeil, là, c'est quand même quelque chose de troublant. J'en parle pas dans mon spectacle, mais des fois, ça paraît dans ma face. Mais je dirais que c'est... mon Dieu, les maladies, c'est vraiment troublant. Je pouvais pas croire qu'un enfant... Je pensais pas que c'était possible que quelqu'un soit autant malade tout le temps. Tu sais, deux jours pas malade, je suis comme, waouh, c'est vraiment le fun. Puis après ça, ça recommence. Aussi, le fait que quand on devient maman, on devient un peu plus mêlée. Puis moi, je me trouvais déjà mêlée avant d'être maman. Fait que là, j'en reviens pas là, que ce soit possible d'être plus mêlée que j'étais.
TDAH, le bébé, dort pas, ça...
Ouais, c'est un mauvais mix, là. Ouais.
C'est difficile?
Quand même, c'est difficile pour mon conjoint, je dirais, plus, là. Moi, j'ai du fun, là. Mais des fois, je t'inquiète, là, je commence, j'espère que je suis correcte, j'espère que je suis bonne. Fait que c'est plus ça.
Est-ce que vous dites, il y a un âge où là, je vais être plus confortable comme mère?
18, je dirais.
18? Quand elle va vouloir quitter, peut-être?
Ben, je vais... Oh mon Dieu, j'aimerais ça qu'elle quitte pas, mais j'imagine qu'elle va vouloir un jour, là.
Puis dans votre spectacle, vous nous parlez de quoi pour ça?
Je parle justement de mon TDAH. J'ai refait des tests de neuropsy cette année. Ça a expliqué plusieurs affaires. Par exemple, l'écolalie, je fais ça. Je répète les sons puis les bruits que j'entends. J'ai des problèmes aussi auditifs, moi. Souvent, les gens ils disent que ma voix est fatigante ou aiguë, mais des fois, c'est parce que je m'entends pas bien. Fait que j'ai tendance à la crinquer. Je parle aussi de sexualité. Je parle, mon Dieu, de aussi d'être connue. Tu sais que moi, j'aime ça rencontrer les gens autour de moi. Puis quand les gens me reconnaissent, j'aime ça. J'essaie de les faire rire à chaque fois. Mais en ayant un enfant, ça a changé quand même la dynamique avec les gens. Puis aussi que j'ai peur que ça dérange ma fille un jour, que justement les gens nous reconnaissent puis qu'elle ait de l'attention. J'ai peur qu'elle devienne un enfant roi, tu sais.
Puis comment vous allez faire pour que ça arrive?
Ben ça, je le dis dans mon spectacle. Ah. Il faut venir, monsieur.
Donne-moi juste une ligne.
Ah, je peux pas, non. C'est trop bon. C'est trop bon, il faut voir le spectacle. Je l'explique aux parents connus, là.
Est-ce que vous anticipez, exemple, que votre fille va voir ça, mettons, un spectacle où vous parlez d'elle quand elle a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, puis qu'elle va regarder ça à 15, 16 ans, puis elle va dire, tu parlais comme ça de moi en spectacle, pensais-tu? Tu sais, des fois, il peut avoir des réactions.
Non, parce que je parle pas de sa personnalité, je parle pas d'elle exactement. Tu sais, je parle de la garderie, trouve un médecin, des choses comme ça, mais je parle pas de elle-même, tu sais, de sa personnalité nécessairement, là. Puis de toute façon, elle a deux ans et demi, là, je pense pas qu'à 15 ans, elle va faire comme, hey, je peux pas croire que t'as dit que j'avais des couches, là, tu sais. Je pense que, j'espère qu'elle va avoir la maturité de comprendre, mais il y a rien qui est sur elle, nécessairement. C'est plus ma famille, mes parents, mes sœurs que j'ai eu peur.
Pourquoi?
Ben parce que je parle de la jalousie que j'avais envers ma sœur, parce qu'elle était Madame Parfaite, puis moi j'étais dyslexique, puis que j'avais plus de difficultés, puis là je voulais la copier tout le temps, puis elle trouvait ça bien fatigant. Fait que ça, j'avais un petit peu peur.
Et vos parents?
Mais mes parents, ils me donnaient beaucoup d'attention vu que j'avais plus de difficultés. Puis là, c'est ça, je parle du fait que dans le fond, moi, j'étais jalouse de ma sœur, mais sûrement qu'elle était jalouse de moi aussi parce que moi, j'avais tout le temps mes parents qui me félicitaient parce que ben j'avais pas mangé mon surligneur, tu sais.
C'est quelque chose, votre vie, quand même.
Oui, effectivement, mais en même temps, c'est vraiment une belle vie, là, dans le sens que j'ai tellement de fun, puis je suis tellement ouverte aux gens, justement.
Mais vous faites un paquet d'affaires. Je regardais la liste tantôt, là. Parlons de LOL, OK?
Vous avez aimé, vous?
Oui, version 2, saison 2, en fait, là. Oui, j'ai aimé ça parce que, d'abord, ne pas rire avec un environnement comme celui-là, avec les gens qui étaient là avec vous, pas simple.
Non.
Comment vous êtes préparé à ça, de se dire, là, je ne dois pas, même pas sourire pendant l'émission?
Ben moi, j'avais regardé les autres saisons. Je m'étais pratiquée, ça marchait pas. Mais par exemple, je voyais les trucs
comment
de certains.
Pratique?
Ben j'essayais de pas rire, tu sais, de regarder la saison 1, justement, puis de pas rire, c'était vraiment difficile. Je sais comme, je sais pas comment ils font. Avec le stress, ça facilite quand même un peu les choses. Mais il y a quand même des trucs que tu vois chez les autres personnes. Moi, j'avais regardé, justement, en anglais, le Canadien... le Canadien anglais, puis j'avais vraiment remarqué qu'il y en avait un qui faisait beaucoup de faces par en bas, tu sais, puis faisait « oh, oh », à place de rire, puis j'étais comme « oh, c'est ça que je vais faire oh, ». Et lui, il a compris, là, parce que moi, je peux pas ne pas faire quelque chose si quelqu'un fait une blague, là, c'est sûr que je réagis, là, ou si je fais une blague. Donc, je m'étais mis dans la tête que j'allais peut-être faire, c'est ça, juste des sons pour m'aider à passer le rire.
Je dirais pas tous les détails que j'ai vus dans la série pour les gens là, qui l'ont pas regardé, mais... Est-ce que c'est plus, je dirais, challengeant de faire rire les autres, de poser, faire quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont être pénalisés, ou de rester en contrôle et d'avoir l'air bête?
Mon Dieu, c'est vraiment de faire rire les autres là, à 100%, parce que c'est là que tu te mets en danger. Tu sais, si je pense à Stéphane Rousseau, qui est sûrement le joueur que j'ai le plus apprécié, puis que le public aussi a le plus apprécié, c'est que il est tellement allé de l'avant, il est tellement allé justement, il a pris des risques tout le temps, puis c'est ce qui fait que t'es éliminé à un moment donné aussi, c'est que tu peux pas ne pas rire là si tu fais des blagues tout le temps, puis si tu te mets dans une attitude de je vais faire rire les collègues, c'est sûr que ton attitude à un moment donné à reste au point que ça te fait rire là, ça se peut pas là que tu décroches pas.
Je dis que vous êtes, enfin j'ai dit tantôt que vous étiez très très occupé, cette idée de jumeler des jeunes avec des personnes âgées.
Oui. Ben oui, je faisais ça. Ben là, je suis plus porte-parole, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, les personnes âgées, depuis que je suis jeune.
Mais l'idée du jumelage avec des jeunes, pourquoi?
Ben, c'est parce que dans le fond, c'est qu'à 14 ans, souvent, c'est là que ton empathie se développe. Et que les jeunes, ils prennent des responsabilités. Donc, je pense que c'est le meilleur moment pour un jeune de faire du bénévolat, d'amener quelque chose. Puis en plus, ils sont assez responsables, puis ils sont capables de parler, d'avoir une conversation avec une personne âgée, puis de jouer à des jeux, puis de faire du vernis à ongles. Donc, c'est l'âge idéal. Puis ils sont pas occupés normalement à 14 ans. C'est sûr qu'avec la pandémie, maintenant, ils travaillent au McDonald's, mais avant ça, il y avait quand même le temps d'aller faire du bénévolat. Donc, moi, c'est ça que je trouvais le fun. Puis moi, à 14 ans, justement, moi, j'en faisais du bénévolat, puis je m'occupais de ma grand-mère, ma mamie. Donc, c'est resté en moi. Puis je trouve que c'est les personnes les plus hilarante au monde.
Puis en même temps, c'est important pour elle parce qu'il y a des moments de solitude, des moments de vieillesse.
Ben oui, exactement. Puis on s'entend qu'un enfant, un ado de 14 ans, c'est les personnes qui ont quand même beaucoup d'énergie, qui ont des choses à dire, qui sont intéressées. Moi, je pense qu'on devrait vraiment donner plus de responsabilités aux gens de 14 ans pour aider la société parce qu'ils sont capables puis ils ont la maturité de le faire.
Les réseaux sociaux, vous en pensez quoi? Pensez-vous que c'est bon, mauvais, à petite dose? Vous êtes quand même présente pas mal. Comment vous évaluez ça?
Moi, je trouve ça quand même difficile, mais depuis, je sais pas, un ou deux ans, j'ai réussi... Ben, depuis que j'ai eu ma fille, en fait, j'ai réussi à mettre un genre de... d'écran sur ma vie. J'ai réussi à protéger, en fait, mes sentiments, ma façon d'être, puis de voir que c'est pas parce que quelqu'un me déteste que ça veut dire que je suis vraiment pas bonne. Parce que souvent, quand quelqu'un disait qu'il m'aimait pas, ça me faisait de la peine parce que j'avais l'impression d'avoir dérangé cette personne-là. C'était même pas, ah, oh, cette personne-là est donc ben stupide de pas m'aimer, ou ah, oh, cette personne-là, je m'en fous parce que je m'en fous pas, tu sais. J'avais plus l'impression que...
Ça vous blessait, ça.
Mais ça me blessait parce que j'avais l'impression de déranger les gens, puis je veux pas déranger, moi je veux faire rire. Donc c'est sûr que ça me blessait, puis maintenant c'est plus, ah, oh, ben, à un moment donné, il va me voir, puis il va aimer ça, ou je les lis plus du tout, en fait.
Vous les filtrez un peu plus?
Mais c'est que j'ai pas le temps, là.
Ouais.
C'est que j'ai plus le temps. Puis tu sais, pendant la pandémie, on avait énormément de temps, les artistes, je pense que ça fait du mal à beaucoup de monde de lire ce que les gens disaient.
Quand vous dites que ça fait mal, c'est-à-dire que ça vous touche, les gens ont l'impression que, ah, oh, c'est pas grave, j'écris ça sur le moment, c'était une impulsion, mais c'est important ce que vous dites, c'est que vous l'avez quand même direct au cœur, là.
Ben oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde que ça leur fait ça, là, énormément, plus que les gens pensent, puis... Je trouve que c'est correct aussi de donner son opinion. Si t'aimes pas ça, ben tu peux le dire, mais des fois, je me dis, ah, oh, ça sert à quoi? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes que ça les touche. Je veux dire, même en politique, quand ils reçoivent soit des menaces ou des aspects négatifs, je pense que des fois, ça peut même ralentir un peu le travail là, de certaines personnes.
Je vous ai vu à Tout le monde en parle.
Oui.
Et quand vous avez parlé, ils ont abordé la question de l'affaire de Julien Lacroix, vous avez dit, tout ce que j'ai fait dans ça, c'est de soutenir une amie. Je vous traduis bien les propos.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand on dit soutenir une amie, c'est tout ce que j'ai voulu faire.
Ben, dans le sens que je l'ai accompagnée là-dedans, je l'ai écoutée. C'est à peu près ce que j'ai fait, là.
Et pourquoi vous l'avez fait? Parce que c'était une amie?
Ben oui, je me voyais pas ne pas le faire, là.
Puis comment vous avez vu la suite des choses après?
Ben, dans le sens que... Comment j'ai vu la suite des choses?
Je veux dire, il y a eu les articles dans Le Devoir, il y a eu d'abord, et après ça, il y a eu dans la presse. Comment toute cette histoire-là a évolué? J'imagine qu'on n'anticipe pas comment ça va se passer.
Non,
on soutient une amie, puis on se dit on va être là pour elle. Puis là, ça prend une dimension autre.
Ben quand tu sais ce que tu as fait, puis que tu le sais pourquoi tu l'as fait, après ça, ben t'es plus responsable. Cette histoire-là ne t'appartient plus. Donc, vu que ça m'appartient plus, j'ai pas le choix de décrocher puis de faire ben coudonc, tu sais, puis d'aller de l'avant. Moi, j'ai maintenant mon spectacle, j'ai fait mes projets, j'ai ma famille, puis j'ai décidé de mettre de l'énergie là-dedans plutôt, puis de laisser juste aller les choses.
Parce que ça a mal tourné quand vous regardez ça, vous dites c'est pas ça que j'avais pensé, puis c'est pas ça que je voulais.
Ben pas nécessairement. Moi, je pense juste que je suis passée à autre chose puis que c'est tout là. Je veux même pas nécessairement en reparler parce que j'ai quand même l'impression que ça m'appartient pas puis que les gens, ils se font leur propre opinion, là.
Dernière question sur ça, mais c'est pas nécessairement direct là-dessus. Il y a des artistes, pour toutes sortes de raisons, qui ont été annulés. Lacroix, ça a été ça pendant un bout de temps. Éric Lapointe, lui, ça a pas l'air d'avoir trop fait mal à sa carrière. Il a continué. Je comprends que c'est chaque personne qui décide. L'annulation, la sentence pour quelqu'un qui a posé des gestes graves, condamnables, est-ce qu'il y a une fin dans le temps ou si c'est à vie, la condamnation, selon vous?
Ben moi, je pense que c'est pas à moi de juger ça, dans le sens que chaque personne, ça leur appartient, puis je pense vraiment que le public a le droit d'aller voir qui il veut. Ça, c'est vraiment mon opinion, puis je suis pas la pro de savoir qui, quoi, quand. Donc, je pense que c'est à chaque personne de se faire sa propre tête.
Ça commence quand, devant les médias? C'est demain?
Non, mon Dieu, j'espère que non. C'est le 9 avril.
Le 9, c'est vrai, après l'éclipse.
Oui, après l'éclipse, j'espère que tout le monde va avoir ses yeux.
Et ça s'appelle MILF?
Oui, exactement. MILF,
je me suis renseigné, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Vous êtes allé sur Internet?
Non, j'ai demandé à ma collègue Catherine Brisson ici.
Ah, tant mieux.
Ce qui veut dire?
C'est un acronyme,
ouais.
Mais dans le fond, c'est une mère sexy qui a du fun, qui fait des activités. Une mère, tu sais, c'est surtout pour la blague, en fait. Mais c'est une mère, mon Dieu, qui est à l'aise dans son corps.
Puis qui aime les jeunes hommes, je pense, non?
Pas nécessairement.
Non, c'est ce que Catherine m'a dit.
Ah, bon, ben, coudonc, je pense qu'il faudrait que vous googliez, peut-être, Monsieur Arcan.
Mais Catherine, c'est vrai que je pense qu'elle est dans la cinquantaine, puis peut-être que.
Peut-être, je sais pas, peut-être.
Merci beaucoup d'être venue ce matin.
Ça me fait vraiment plaisir.
Rosalie Vaillancourt.
Bon.
pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité nous propose un livre ce matin de recettes. Le titre, et vous allez comprendre les détails qui l'entourent, c'est « Manger, c'est bon ». Sophie Préjean, bonjour.
Bonjour, Paul.
Sophie, « Manger, c'est bon », c'est ce que ton fils dit.
Constamment.
Constamment.
Constamment. C'est probablement la chose que j'ai le plus entendue dans ma vie, c'est cette phrase-là. C'est pour ça que le titre s'est imposé. C'est pas vraiment moi qui ai choisi mon titre, c'est mon fils. À un moment donné, j'étais dans l'auto. On cherchait un titre au début, puis j'ai dit à Charles, je pense que je l'ai trouvé. Il dit, ah oui, c'est quoi? J'ai dit, c'est manger, c'est bon. Il y a eu un grand silence, j'ai fait, c'est sûr que c'est ça. Ça peut pas être autre chose. Parce que quand, tu sais, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les autistes ont des séquences dans leur journée. D'abord, ça les rassure,
ouais,
avec des pictogrammes et tout ça. Quand Mathis arrive à la maison, quand Mathis se lève ou quand Mathis revient d'aller faire un tour de voiture, il s'en va dans le frigidaire. Là, tu sais, c'est comme...
C'est rassurant.
C'est ponctué. Sa journée est ponctuée de nourriture, d'alimentation, de repas. Il sait où il est rendu dans sa journée par rapport au repas. Tu sais, par exemple, le matin, bon, c'est son muffin anglais, il y a une collation avant son dîner. Une petite collation, retour de l'école. Quand Mathis, il revient de l'école trop tôt, il sait pas quelle heure il est. Il sait juste que la prochaine chose qui arrive, c'est le repas, c'est le souper. Fait que ça peut être une période difficile pour lui d'attente de patience. Monsieur est pas très patient. Fait que c'est manger, c'est bon. Puis quand je dis non, c'est pas le moment,
mais
Mathis, de
est-ce
manger.
Est-ce qu'il mange de tout ou s'il est très sélectif?
Pas petit. En moyenne, là, les jeunes autistes mangent en moyenne 5 aliments. Tu fais le tour vite, là, avec une toast ce matin, une frite, puis parce que c'est ça aussi, les couleurs, ça les atteint beaucoup, ça les influence. La couleur, la saveur, la texture, fait que c'est ça. Ça roule un peu autour de tout ça, son univers à Mathis. Maintenant, il est beaucoup moins difficile. Il a commencé à manger de la pizza, il avait 18 ans.
Hey,
il y avait trop de...
De couleurs,
là? Ouais, il y avait trop d'aliments. Il y avait trop d'informations, en fait, sur une pizza. De petites choses, toutes sortes de couleurs. Puis là, il y avait tendance à prendre le bout de pizza puis l'envoyer comme ça par deux... Tu sais, là, je le fais à la radio. C'est difficile. Tu prends à point, tu fais vite de bord, okay, en commençant, en te mettant ce qu'il y a, les goodies, sur la langue plutôt que de... Alors, c'est un dégât monumental. Tu sais, c'est drôle à dire, mais mon fils, il est rendu à 22 ans. Je coupe encore sa pizza. Sinon, il le fait encore. Il fait encore le flip de se revirer la pointe de pizza sur la langue.
Puis, il y a aussi la disposition dans l'assiette qui est, j'imagine, importante.
Oui.
Comment tu répartis les aliments?
Bien, encore aujourd'hui, Mathis, il aime beaucoup avoir beaucoup de petits plats devant lui. Comme la plus belle chose que je peux y servir, c'est un dessert, mais plusieurs petits desserts dans plusieurs petits bols. Ça, c'est parce que, un, ça se touche pas. Parce que, deux, ça y fait plusieurs choses qui choisit de manger dans l'ordre qu'il veut. Tu sais, le style goulash, là, tu sais, le style tout ensemble. Comme par exemple, un pudding chômeur, c'est moins sa tasse de thé. Il sait pas trop comment. Il y a du mou, du dur. Des fois, il y a de la sauce. Des fois, il n'y en a pas. La crème glacée, c'est une information universelle. Tu comprends? Ça, c'est bon. C'est froid. Ça, c'est vraiment son aliment préféré, là, la crème glacée. Là.
On parle de ça parce qu'il y a un livre de recettes.
Ben oui.
Que les gens vont pouvoir se procurer.
Déjà.
C'est déjà disponible.
Oui.
Puis, on revisite des recettes, on adapte un peu.
Mais oui, c'est un univers, en fait. Parce que c'est un livre de cuisine, mais bon, si tu l'as un peu regardé, j'ai des recettes de tout le monde. De Ricardo, de Jeannette Bertrand,
Mario,
de mes amis, Mario Dumont, mon père, ma mère, le chum de la productrice du show autiste bientôt majeur, qui a beaucoup contribué, qui a donné... Bref, j'ai voulu proposer un univers, bien sûr, autour de l'alimentation chez les autistes, parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même là-dedans sur l'alimentation, l'intégration des nouveaux aliments chez un autiste de n'importe quel âge. Mais ça s'adresse aussi à des jeunes enfants sais, qu'on fait la même chose, on introduit des nouveaux aliments, puis ils peuvent être extrêmement difficiles. Il n'y a pas juste les autistes qui sont rigides au niveau de l'alimentation. Il y a des histoires que je raconte. Ça se devait d'abord d'être un bel objet. Mm-hmm. Parce que c'est entre autres pour faire connaître la Fondation. Il y a deux porte-parole, Charles et moi. Mais je trouve que cet objet-là vit en soi. Il est sur une table. Après ça, c'est quoi l'univers d'une famille où il y a un enfant autiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comporte? Comment on commence? On les introduit tranquillement à une plus grande ouverture de l'alimentation. Parce que c'est faisable. C'est dur. C'est plus dur qu'un enfant neurotypique. Mm-hmm. Mais c'est faisable. Mon fils, on va dans tous les restaurants avec lui. On dirait que plus c'est cher, mieux c'est. Ça, je comprends pas. Il y a du goût. On va manger correct, dans ça. Des endroits un peu fancy. Tu sais, tu aurais tendance à penser qu'il va rien manger. Contraire. Si ça sent bon, si c'est beau, et si c'est bon, le petit tabarnouche, il sait, il goûte, il va goûter à tout. Il sait ce qu'il va goûter ou ce qu'il ne goûtera pas, ce qui l'intéresse ou qui ne l'intéresse pas. Puis essaye pas d'y mettre quelque chose qu'il a pas envie de manger. Des sushis, ça fonctionne pas. Du poisson cru, ça fonctionne pas. Mais pour avoir essayé moult fois de toutes sortes de façons possibles et imaginables, ça fonctionne pas.
Tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que les barrières tombent tranquillement autour des enfants qui sont autistes. Ce soit dans le milieu scolaire, c'est pas parfait, là. Je suis pas en train de dire que tout est correct, mais qu'il y a une meilleure compréhension. Je regarde au chapitre de l'emploi, il y a des parents qui me parlent de jeunes qui ont 21, 22, qui ont un job routinière qu'ils adorent faire, ils sont capables. Dans d'autres endroits, c'est plus compliqué, mais moi, j'allais dire... Grâce beaucoup à toi et Charles, vous avez comme mis le projecteur là-dessus, sur votre vie, puis sur la vie de Mathis, en disant, voici ce qui se passe, puis on n'est pas les seuls.
Oui, on est une famille qui avons osé montrer au grand jour notre quotidien. Je peux pas dire que tu trouves ça toujours facile, hein, toi et moi. Là.
J'imagine.
Non. Non. Mais il y avait un intérêt, il y avait une raison, il y avait une cause. J'aurais pas fait ça pour quoi que ce soit d'autre, mais pour expliquer, en fait, les difficultés, des fois, d'intégrer des enfants comme le nôtre dans une société. Là, t'as raison, il y a une curiosité, il y a un désir, il y a un intérêt, en fait, de la société de mieux comprendre puis de les intégrer. Des fois, c'est malhabile, mais la volonté est là. L'intérêt, la curiosité, le désir de, c'est valorisant. Tu sais, je te l'ai souvent dit, je suis convaincue qu'on évalue la qualité d'une société à la façon dont elle traite ses minorités. Ça nous appartient, c'est à nous autres de décider ce qu'on fait avec ça. On est qui? On inclut comment ces gens-là? On leur souhaite bienvenue comment? Peu importe la minorité dont on parle. Puis ça, c'en est une, qui est difficile des fois à comprendre. Je dis souvent, ça prend des clés pour ouvrir les portes. Mais Christy, il y a des portes puis il y a des clés. Elles sont barrées, les portes, là. Mais c'est possible. À nous de décider comment. Il y a deux semaines, on est allé ouvrir un centre à Québec.
Québec, j'ai vu ça.
Oui. C'est un espace. C'est un espace autiste et majeur où on accueille les autistes adultes qui ont atteint la majorité à s'intégrer, à leur trouver un travail. Saint-Hubert, la Fondation Saint-Hubert, la compagnie. Ils sont très intéressés par ça. Ils les intègrent bien. Ils leur donnent du travail. Ils les payent comme si c'était quelqu'un de neurotypique. Quand la fonction est là, quand ils sont capables de remplir, quand l'efficacité est là, il n'y a pas de raison de les payer moins et de les inclure de façon marginale. C'est pas ça le but. Le but, c'est de les intégrer. Je vous assure que ça fait de moi une meilleure personne ainsi que notre société.
À chaque fois que j'aborde le sujet, je reçois un déluge de réactions, de commentaires, de parents qui me disent « Vous en parlez, merci, parce que, un, je me reconnais. » Ils vont se reconnaître dans ce que tu viens de décrire depuis le début de l'entrevue. Puis en même temps, ça les rend plus à l'aise. Ils se disent « Je me sens pas seul. » Puis, tu sais, des fois, tu as peut-être tendance à te refermer sur toi-même puis te dire « C'est dur, puis c'est pas toujours jojo, puis il y a des moments, puis il y a des crises, puis tout ça. » Puis là, je m'aperçois qu'il y en a d'autres qui passent par là aussi.
Ben oui. Mathis a un comportement atypique. C'est très drôle, là. Tu regardes un enfant de 2 ans, 3 ans, regardez mon fils, je sais que cet enfant-là comprend que c'est un adulte qui est différent. Il fait du bruit, il fait des sons bizarres. c'est gênant au début. Surtout à 6 pieds 3, 265 livres. Là. C'est pas comme si t'es un jeune bambin. Non. C'est donc drôle ou attirant. Ou à la limite, tu t'en rends même pas compte qu'il y a un comportement qui est aspect. Mathis, tu sais, mille et un, tu le sais. T'as même pas le temps de te rendre à mille et deux. Il est grand, il fait des bruits. Il fait toutes sortes de gestes atypiques. Si on n'était pas Charles et Sophie, ça serait probablement extrêmement gênant. Là. Ça, je te parle même pas des crises qu'il a pu nous faire en public. Là. Je te parle juste d'un comportement que moi, j'entends même plus. Là. Moi, quand je vais chez Costco là, à Boucherville, parce que tout le monde me connaît, il n'y a plus personne. Ils font « Allô, Mathis! » Puis Mathis répond pas là, la plupart du temps. Et ils savent, ils comprennent. Puis je me dis « Mon Dieu, c'est fantastique. » À quel point, même eux, c'est devenu, ça fait partie de leur norme. Aux gens qui nous croisent. On va à cage, au sport. Même affaire. Il mange pas très bien, mon fils. Il est pas très... Il a tendance à baisser sa tête pour aller chercher l'aliment dans son assiette. Ça me met là, dans tous mes états. Je peux pas croire qu'on... Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? À tous les repas, je me bats avec. Là. Puis j'ai pas encore réussi ce combat-là. Là.
Sur un autre front, comme dirait l'autre,
oui.
C'est quoi l'impact de Mathis sur ta carrière, sur tes choix professionnels? C'est-à-dire, as-tu renoncé à des choses? As-tu pu, au contraire, te libérer pour faire des mandats? Je pense à la présidence de l'Union des artistes. Ouais. Est-ce que ça a eu un effet ou pas?
Ça, j'ai forcé, je t'avoue. Là, j'ai forcé. Là, parce que premièrement, je travaillais encore comme comédienne. Là, puis je savais que j'ajoutais une deuxième job à temps plein à mon horaire, en plus de ma job de maman. Là, ça m'en faisait trop. Ça a été un 10 ans tough, là. Puis en plus, quand tu fais une série de 10 épisodes d'une heure, puis que t'as 15, 20 jours, 22 jours de tournage, c'est une chose, mais quand je suis tombée sur Alerte, la version annuelle, on est tombé à 26 épisodes d'une heure. Ça, c'est les 3-4 dernières années. Comme par exemple, moi, de la tournée, je n'ai fait une fois, je savais qu'après ça, j'en ferais plus jamais. Ça, c'était pas possible là, de faire de la tournée de théâtre. En ayant Mathis, en continuant mon travail de maman, puis mon travail de présidente, ça ne se pouvait pas. Là. Ça, j'ai forcé. Mais puis oui, effectivement, il y a des choses que, comme ce que tu fais, je pourrais pas faire ça. Puis je l'ai déjà dit à mon chum, tu fais ça, on se divorce. C'est pas compliqué, c'est non. Fait que il y a des affaires que c'est non. Puis quand j'effleure la possibilité de faire de la politique, il fait, tu le sais, tu sais, si tu fais ça, c'est la même affaire que la radio le matin, c'est le divorce.
OK, là, tu vas aller plus loin. T'effleures l'idée de la politique.
Non, mais tu sais, parce que ça s'effleure, cette idée-là, quand on quitte l'Union des artistes, ouais. Quand même. Puis c'est une question.
On est à 2 ans d'une élection.
Oui, c'est ça. Tout se pose comme question.
Mais t'as envie de faire ça.
Ben, c'est-à-dire que je me suis posé la question, puis la politique est-ce que puis j'ai eu des approches plus concrètes aussi, mais je peux-tu moi aller faire ça de la politique à Ottawa, tu sais, par exemple là, tu sais, parce qu'il y a bien des paliers là, mm-hmm. La municipale, le provincial, il y a le fédéral, tu sais, si la question se pose, est-ce que sans doute pas, tu sais, j'ai dit non.
Est-ce que c'est frustrant?
Ben, c'est-à-dire que c'est un choix que je fais tout à fait sensé et conscient. Fait que c'est frustrant. Probablement un peu une partie de moi qui fait, ben, coudonc, ça sera pas dans cette vie ici, mais c'est un choix. Tu sais, je pourrais forcer la note puis dire, ben, non, mon fils est rendu à 22 ans, puis go, je vois pareil. Inch'Allah, on verra ce que, mais j'aime mieux y penser avant. J'aime mieux prendre une réponse réfléchie avec un pas de recul. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse, malgré l'âge de mon fils, 22 ans. Parce que ça ferait longtemps, là, en théorie, qu'il serait à l'université et qu'il aurait quitté le nid. C'est pas le cas.
Puis la fondation, ça va bien.
Ben la fondation, tu vois, ça c'est un cadeau. Moi, j'ai fini parlant du livre de recettes parce que j'ai quitté l'Union au mois d'avril. Je me suis mis là-dedans au mois de mars, fin mars. C'est un an que je travaille là-dessus, à pas faire un sou à moi. Tous les profits vont à la fondation. J'avais envie de ça. J'avais de la place pour ça dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est un cadeau du ciel, ça, dans le fond, là, la fondation. Je m'éclate un peu là, là-dedans. Je fais des choses que je ne pensais jamais pouvoir faire, tu sais. Fait que, j'ai pas une vie plate. Tout ça pour dire que j'ai pas une vie plate.
Merci beaucoup d'être venu, puis merci également pour ce que vous faites.
Merci à
Charles
toi de nous recevoir à chaque fois.
Merci. Sophie Préjean, le livre « Manger, c'est bon », le titre facile à trouver, puis ça veut tout dire en même temps.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Je vous ai dit que pour les prochaines semaines, avant la fin de la saison, on inviterait des gens, ce qu'on appelle du contre-emploi. Des gens que vous allez être surpris d'apprendre, qu'ils aiment, ils ont une passion peut-être plus ou moins connue, et ils vont se greffer à certains moments de l'émission. C'est le cas ce matin avec Catherine. qui va nous parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Père et qui est présentée au Théâtre du Nouveau Monde.
Exactement, de l'auteur Florian Zeller, une pièce qui a été écrite en 2012. Le film aussi, qui est sorti il y a 3 ans, a fait un immense succès avec Anthony Hopkins. Et aussi, on a un critique aujourd'hui à l'émission, un critique théâtral, parce qu'il aime beaucoup le théâtre. Il est abonné d'ailleurs au TNM. C'est Monsieur Pierre Fitzgibbon. Bonjour, Monsieur le ministre.
Bonjour, Catherine.
Super ministre qui peut-être sera un super chroniqueur culturel. Je fais attention à mon emploi.
Très bien.
Oui, très, très bien. Et on va parler de cette pièce de théâtre que on n'est pas d'accord sur la pièce, sur la critique qu'on va en faire. C'est important de le mentionner, mais c'est une œuvre qui est bouleversante. Si vous avez vu le film, peut-être que vous savez un peu. On a reçu d'ailleurs Marc Messier et aussi Catherine Trudeau il y a quelques semaines. On est devant un homme, André, qui est en perte d'autonomie, qui souffre de perte cognitive aussi, qui oublie ses objets, sa montre, connaît pas toujours ses proches, son caractère aussi est très changeant. Mais c'est un homme qui a toujours été fier, c'est un ingénieur, c'est un érudit. Donc lui, il se voit pas changer. Donc nous, on a le regard de cet homme qu'on voit changer sous nos yeux. Sa fille aussi doit le prendre dans son appartement. Donc pour elle, elle devient une aidante naturelle contre son gré. C'est très difficile à porter. C'est trouble aussi pour elle. Je vais vous proposer d'écouter un court extrait et on fait notre critique tout de suite après.
Parfait.
Et où Anne?
Quoi?
Anne, et où?
Mais je suis là, papa. Je suis là.
Je suis chez moi. Non?
Tu l'as menacé?
Moi?
Oui. Avec la peau à rideau?
Avec la peau à rideau? Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là?
C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que tu l'avais menacé physiquement.
Ben voyons, ça c'est du délire total. Tu le vois-tu avec la peau à rideau? Toi, non, mais tu vois bien que cette femme-là, elle sait plus ce qu'elle dit, là. Hein?
Laurent est passé nous voir pour comprendre un peu comment tu vis.
Monsieur Fitzgibbon, on veut vous entendre sur la pièce.
Ben, premièrement, merci de l'invitation. Je trouve ça intéressant comme situation. J'essaie de m'investir un peu. J'aime beaucoup le théâtre, comme Catherine l'a dit, mais c'est rare que je rentre au théâtre en me préparant. Généralement, je rentre et je sors, je pense à d'autres choses. Alors, je dois avouer, j'ai trouvé ça intéressant parce que, premièrement, Florian Zeller, je connaissais un peu de réputation, sans plus. Puis de réaliser que c'est un romancier qui a beaucoup de romans. Il a fait, après ça, il était dramaturge. Et après, il a fini comme cinéaste. Hein. Le père a gagné l'Oscar en 2021. Donc, c'est intéressant de voir son parcours. C'est intéressant aussi de voir que, finalement, c'est une trilogie qu'il a écrite. Quand j'ai voulu me procurer le livre, je voulais avoir le père. Puis j'ai réalisé qu'il fallait que j'ajoute le père, la mère et le fils. Parce que M. Zeller a quand même écrit 3 pièces qui ont été intercalées quand même par d'autres pièces. Alors, la trilogie n'était pas nécessairement préméditée. Il a commencé par écrire La mère, une histoire très touchante en 2010. Après ça, il a continué avec Le père en 2012. Il a fini avec le fils en 2018. Et après les faits, il a réalisé que dans le fond, c'était une trilogie parce qu'il y avait des personnages qui étaient semblables. Alors, moi, ça m'a beaucoup pris parce que cette maladie-là, d'Alzheimer, évidemment, c'est une maladie grave dégénératrice. On parle de mémoire, de la démence. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de vivre l'expérience, si je peux dire. Puis évidemment, en vieillissant, on regarde ça. On connaît des gens qui ont souffert, qui souffrent de l'Alzheimer. Et de se mettre dans cette situation. Au début, je riais un peu parce que c'est quand même adapté à la québécoise.
Il y a beaucoup d'humour, oui.
Le film est beaucoup plus sérieux, je pourrais dire. La pièce a été adaptée aux Québécois, donc il y a un peu d'humour là-dedans. Au début, on rit, mais on rit jaune. Et rapidement, on réalise, oups, on est dans le personnage. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Je trouve ça poignant comme situation. Alors, j'ai aimé l'environnement, surtout quand on comprend le contexte dans lequel la pièce a été écrite.
En fait, moi, j'ai aimé, évidemment, la pièce. Le contenu, parce que c'est très, très troublant de se mettre dans la peau de quelqu'un qui commence à perdre ses repères aussi. Puis, évidemment qu'on peut penser à des gens de notre entourage, mais autant le personnage d'André que celui de la fille Anne aussi, à quel point ça peut être difficile de voir son père aussi perdre ses capacités puis essayer de l'aider, mais lui, évidemment, il comprend pas qu'est-ce qui se passe, donc c'est difficile pour lui d'être aidé. Et dans ce cas-ci, Marc Messier et Catherine Trudeau forment un très, très bon duo, on croit à leur personnage. Là où moi, j'ai un gros, gros bémol, c'est dans la mise en scène d'Edith Patenaude et aussi l'adaptation québécoise d'Emmanuel Reckenbach. On a beaucoup, beaucoup misé sur l'humour et à mon avis trop, ce qui fait perdre en intensité, en émotion. La scénographie aussi est étouffante parce qu'on a créé l'appartement de Anne en arrière-scène avec une espèce de poutre au milieu. Il y a aussi des projecteurs tout autour de la scène qui, lors des transitions, aveuglent le public. Donc, je trouvais qu'on perdait le rythme et qu'on avait de la difficulté à entrer dans l'émotion. Je ne sais pas si M. Fitzgibbon est d'accord avec moi là-dessus sur la scénographie, la lourdeur de la pièce.
Mais non, je n'ai pas la même habileté que vous de critiquer comme ça, mais moi, c'est léger, c'est très léger. Puis moi, quand je vais au théâtre, évidemment, ça peut me reposer un peu, là, puis me passer à d'autres choses. Alors moi, je trouve ça super léger. Effectivement, il y a des bouts là, de transition, mais quand on regarde ce qui a passé comme message, puis en quoi, une heure et demie, c'est pas long, hein, une heure et demie de vivre tout ça, ben, je pense que ça requiert ça. Est-ce que ça peut être fait plus rapidement? Et j'ai regardé rapidement sur YouTube le film, que je vais aller voir d'ailleurs, où j'ai regardé le film d'Anthony Hopkins, qui a gagné. Puis c'est sûr que le film, on voit que c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus lourd. Apparemment que le message peut-être passe mieux.
Mais vous avez dit quelque chose tantôt d'intéressant. Vous dites, on regarde ça, là, puis au début, on rit un peu parce qu'il y a des scènes veut-veut pas, puis c'est voulu, là, un peu cocasse.
Ben, il oublie souvent sa montre.
Ben oui, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on se projette un peu en se disant, moi, si je me vois dans un état comme ça, là?
Clairement. Puis je pense que la force de M. Zeller, c'est que le film, à l'origine, a été produit avec, comme acteur principal, M. Hirsch, qui avait 87 ans quand il a joué la pièce. Il est mort quelques années après. Il a joué pendant 3 ans, je suis 90 ans. Après ça, Anthony Hopkins, évidemment, dans le film, qui a un certain âge aussi. Bon, Marc Messier est jeune comme moi, mais quand même. Alors, c'est sûr qu'on pense à ça. Puis moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont souffert d'Alzheimer. On regarde ça, puis très rapidement, on se dit, oups, c'est ça la réalité qui frappe les gens, des proches, et peut-être même nous. Alors, c'est sûr qu'on devient très sensible. Puis c'est pour ça qu'il faut que ça soit léger, parce que, encore une fois, on peut réjouir un petit peu, mais moi, je trouve ça intéressant de voir des choses qui nous pognent comme ça, c'est le mot que j'utilise.
Et Marc Messier sur scène, il faut le mentionner, 76 ans, il l'a dit en entrevue ici, ça lui a pris quand même 1 an de préparation pour cette pièce. C'est pas évident à jouer parce qu'il y a plusieurs sphères là-dedans aussi. Il va autant jouer l'émotion, le rire, mais son comportement va changer aussi également. Et à la toute fin, bon, c'est pas un punch, rien, mais redevient un enfant, cherche sa mère. Donc, c'est ces moments-là qui sont... on voit à quel point c'est un grand acteur. C'est vraiment un rôle sur mesure pour lui.
Oui, c'est d'autant plus, je pense que, tu sais, on pense à Marc Messier, on s'en pense évidemment aux Boys, La Petite Vie, L'Anse et Comte, Brou. Alors, il y a un peu, je ne dirais pas l'analogie, mais c'est une suite un peu de ce qu'on connaît de M. Messier. Puis moi, je trouve qu'il a joué de façon parfaite. Moi, je voyais des scènes de Brou, entre autres, puis ouais, peut-être L'Anse et Comte. Fait qu'on reconnaît le personnage. Je pense qu'il l'a bien intégré dans sa pièce. Puis pour nous, Québécois, c'est une continuité.
Mais je savais pas que vous aimiez le théâtre comme ça.
Oui, je suis membre du TNM, j'allais au Rideau Vert, oui, je prends le temps. Là, c'est un moyen pour moi de passer à d'autres choses.
Puis mais... il fait noir, fait que ça économise l'électricité.
Mais justement, mais pourquoi le théâtre plus que le cinéma? Qu'est-ce que le théâtre, l'art vivant, vous apporte davantage?
J'aime voir des gens performer devant moi. Un film, je m'endors. Au théâtre, on voit les gens, puis on est forcé à rester, je pense, plus éveillés. Alors moi, ça me stimule beaucoup. Surtout qu'on est sur la scène, pratiquement. C'est au TNM, il y a quoi, 700 places dans le théâtre. On est à côté, on est là, on vit l'événement. Alors que quand c'est qu'on est trop loin ou les films, c'est plus, pour moi, c'est pour me concentrer plus difficile. Le théâtre, c'est plus facile.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
C'est un plaisir, M. Ricard.
Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie, de l'énergie et de tout.
Et peut-être aussi, oui, chroniqueur culturel.
Peut-être ministre de la culture, ouais, éventuellement.
Merci, merci Catherine, ça fait des gaffes.
Merci à vous.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va parler de l'éclipse, c'est dans une semaine, un peu moins d'une semaine. Les prévisions météo s'annoncent, en tout cas extraordinaires. Ciel dégagé, on parle de soleil, 14 pour lundi prochain. J'en parle avec Marie-Ève Nault, qui est astrophysicienne à l'Université de Montréal. Madame Nault, bonjour.
Bonjour.
Le fait que ce soit, en tout cas au chapitre de la prévision, un ciel dégagé qui s'annonce, ça veut dire que pour l'événement comme tel, ce sont les conditions parfaites là, pour l'observer.
Exactement. On se pince un peu présentement, puis on essaie de pas trop y croire encore, parce que disons que les statistiques n'étaient pas de notre côté, mais pour l'instant, tout a l'air beau.
Quand vous dites les statistiques n'étaient pas de notre côté, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, par exemple, si on prend l'ensemble des régions là en Amérique du Nord qui vont pouvoir voir l'éclipse totale, une bande là, qui passe au Mexique, aux États-Unis, puis au Canada. On était pas mal parmi les pires, là, tu sais, si on se fie aux statistiques de la météo, un 8 avril, on était parmi ceux où est-ce que c'était le plus probable, où ça serait nuageux, ou même qu'on ait des précipitations. Donc, mais comme quoi, hein, des statistiques, c'est des statistiques. Donc, on a l'air d'être du bon côté présentement.
Bon, le débat se poursuit. J'ai encore vu ce matin dans les médias là cette espèce de débat entre des scientifiques puis le monde scolaire, puis on devrait... C'est dans moins d'une semaine. Alors, on va laisser faire le débat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce matin là qui peut-être se réveillent pour la première fois et prennent conscience que c'est dans moins d'une semaine? Comment faire pour observer de façon sécuritaire l'éclipse?
Excellent. Oui, je suis contente qu'on en parle de cet angle-là. Dans le fond, premièrement, j'inviterais vos auditeurs à voir une carte là où est cette fameuse bande de totalité, parce que quand on parle du phénomène unique, rarissime, extraordinaire, que certains qualifient même là, de ça change une vie là, à un certain point, on parle vraiment d'une bande qui est relativement étroite, qui va couvrir les villes en partie de Montréal, donc le centre-ville de Montréal, c'est bon, Sherbrooke, Lac-Mégantic, Saint-Georges, etc. Mais il y a une bonne partie du Québec qui va quand même voir une éclipse partielle. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de vous déplacer dans la bande de totalité, profitez quand même de cette éclipse partielle. Pour les règles de sécurité, c'est très, très simple. Il s'agit, comme n'importe quel autre jour, de ne pas fixer le soleil sans protection adéquate. Quand je parle de protection adéquate, je parle des fameuses petites lunettes d'éclipse. Là, en fait, c'est des filtres solaires qui bloquent 99,9% et plus de la lumière, puis qui rendent donc l'observation directe du soleil sécuritaire. Ces petites lunettes-là, on en retrouve encore un peu partout. On invite juste les gens à faire attention, s'assurer que la mention ISO 123-12-2, pas besoin de retenir le chiffre, mais juste que le nom ISO est écrit derrière la lunette et que le fabricant là peut être retracé, parce que des fois, on retrouve des lunettes qu'on n'est pas capable de retracer. Donc là, des fois, on se demande un peu, là, ça vient d'où ces affaires-là. Mais pour l'instant, moi, j'en ai jamais vu des lunettes là qui étaient pas sécuritaires. Donc, je veux juste rassurer les gens. Les lunettes permettent de manière très sécuritaire de regarder l'éclipse puis d'en profiter au maximum là, lundi après-midi.
OK. Par exemple, quelqu'un qui m'écrit, qui me dit des lunettes de soudeur. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une idée complètement folle?
Non, ben en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent à ça parce qu'il y a, bon, disons, la dernière éclipse qui a frappé dans les grandes villes, là, l'éclipse totale, là, devrait justifier au Québec, là, c'est en 1972, puis ces fameuses petites lunettes-là, très abordables à quelques dollars, étaient pas encore disponibles. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient cette expérience-là d'observer avec des verres de soudeur. Je voudrais juste encourager les gens à être très prudents parce que ça prend vraiment des verres de soudeur qui sont les plus foncés, là, donc grade 13, 14. Si vous savez pas c'est quoi le grade de votre verre de soudeur, laissez faire. Ça veut dire qu'il y a un danger, là. Et puis sinon, ben, c'est pas nécessairement le meilleur spectacle. Donc, si vous êtes capable d'utiliser de trouver une petite paire de lunettes, c'est encore mieux.
Bon, question très personnelle. Vous, là, la semaine prochaine, le 8 avril, là, c'est quoi votre plan de match pour la journée? Comment vous allez observer le phénomène?
Ben moi, c'est sûr que ça me tient à cœur d'aller le plus proche possible du milieu de la bande de totalité, là où la totalité, le moment où la Lune cache parfaitement le Soleil, puis qu'on va voir apparaître toutes sortes de phénomènes excitants comme la couronne solaire, hein, qui est une espèce de c'est une partie du Soleil qui est très diffuse, qui va apparaître comme blancheur tout autour du Soleil. Ça, d'ailleurs, c'est très sécuritaire de l'observer à l'œil nu, hein, pas besoin des filtres pendant la totalité pour ceux qui sont dans la bande de totalité. C'est brillant comme une pleine lune à peu près, là, cette portion-là du Soleil. On va voir apparaître des étoiles, les planètes les plus brillantes, coucher du Soleil sur 360 degrés. Donc moi, ça me tenait à cœur d'aller le plus au centre possible, là où l'éclipse va durer à peu près 3 minutes et demie dans la région là, de Sherbrooke, Lac-Mégantic. Je vais m'y rendre là, dès dimanche là, parce que je vais être sûr de ne pas être pris dans la circulation le lundi matin.
Drummondville, je pense que c'est 30 secondes.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est déjà très bien. Donc, si vous êtes sur le bord de la bande de totalité, comme moi présentement, là, j'habite dans Villeray, on est juste sur le bord. Mais peut-être juste vous assurer de vous déplacer un petit peu là vers le sud pour être sûr d'avoir au moins un bon 20, 30, 40 secondes là, de ce moment-là qu'on décrit comme étant carrément magique. Là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien apprécié.
Merci à
vous.
Merci,
au revoir. Donc, Marie-Ève Nau, qui est astrophysicienne, et c'est sûr qu'on va en reparler, évidemment, encore cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, le 8 avril que c'est prévu. C'est un phénomène qui va durer une bonne partie de la journée.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Bon, là, on va changer les idées. Écoute, je l'ai dans la tête depuis très tôt.
Quand pas le seul, je pense.
Non, écoute, Antoine et moi, le président de la Société des alcools du Québec avait ça dans la tête. Quand il attendait en studio, puis il écoutait... Présente-nous cette légende du hockey mineur du Québec.
Oui, Normand Marino. Je vous parlais du contexte tantôt. C'est que Radio-Canada, ils ont publié sur les comptes des archives de Radio-Canada il y a à peu près un mois, un vox pop d'époque. Ça date de 1962. Très drôle de voir dans ce genre de type de micro-trottoir-là le clash des générations par rapport au sujet d'actualité, mais aussi de voir que les personnes plus âgées d'aujourd'hui qui roulent leur air étaient autrefois des enfants qui roulaient aussi leur air. Et le journaliste a posé des questions à des jeunes joueurs de hockey qui roulaient leur air, dont un qui se démarque, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Normand Marino.
Paul Charon, Yves Collet, Charles Jolly, Serge Bélanger, Michel Lapointe. Normand Marino, j'ai scoré 58 buts l'année dernière.
58?
En 12 parties. J'aimerais quand même faire un joueur de hockey.
Et depuis, c'est devenu vraiment viral. Ça fait des semaines que c'est viral. Normand Marino est partout. Des gens font des montages, des extraits. Il y a des chansons. Normand Marino à The Price is Right. Normand Marino qui joue James Bond. Normand Marino à Big Brother. Normand Marino dans des galas. And the winner is Normand Marino. Et là, la nouveauté ce matin, c'est que Normand Marino est devenu une star japonaise. En raison notamment d'un expatrié québécois qui est là-bas, Alexandre Boucher, à qui j'ai parlé.
Je suis ici pour un an, puis mon ami... C'est une japonaise que j'ai rencontrée ici. Elle est tombée sur le meme de Normand Marino. Elle nous sort souvent Normand Marino pour nous faire rire. Tout le monde ici trouve ça bien drôle. C'est rendu un meme à Nozawa Onsen au Japon.
Donc les Japonais qui parlent pas un mot de mots français capotent sur Monsieur Marino, adorent la sonorité de son accent, la couleur, répètent son nom. C'est filmé et ça donne ceci.
Normand Marino, Normand Marino.
Elle dit bien en plus.
Très bien.
Oui.
Alexandre.
Le ministre Roberge est très content de ce mouvement d'intégration.
Oui, exactement. Et Alexandre travaille, à qui j'ai parlé au Japon, il travaille dans un bar à vin et semble-t-il qu'au bar à vin, tout le monde répète Normand Marino sans cesse. C'est devenu une star internationale. Preuve que l'humour du Québec n'a pas de barrière de langue. Et depuis que j'en ai parlé ce matin, j'ai reçu des messages à la tonne, dont des messages d'un autre Normand Marino qui la trouve pas drôle et un auditeur, Sébastien, qui lui a mis Normand Marino comme sonnerie de téléphone.
Normand Marino.
Ben moi, à chaque fois que je reçois un message texte, ça crie « Normand Marino », tout le monde se retourne autour de moi. Tout le monde me demande c'est quoi, ça vient d'où, puis là, je leur donne la référence, que ça vient d'une entrevue qui est devenue virale. Ça le propage.
Preuve que ça prend des proportions démesurées, ça rentre en tête. Et le monsieur Marino en question a appelé Radio-Canada dans les dernières semaines en se présentant en disant « Je suis le vrai monsieur. » Tu sais, je suis Jean Coutu, mais je suis pas le vrai, mais lui, c'est le vrai Normand Marino.
Normand Marino.
Et
est-ce qu'il roule encore ses R?
Il roule encore ses R, ah, monsieur Marino.
Oui, mais là, il est pas content, c'est sûr, il doit être tanné un peu. Là.
Il trouvait ça drôle, mais je pense que ça s'étire un peu. T'sais.
Mais quand tu t'appelles Normand Marino, mais que t'es pas celui...
c'est ça, il y a un autre Normand Marino qui est pas de bonne humeur.
En même temps, c'est drôle, c'est bon enfant.
Ben oui. Sauf que, mettons, je sais pas, t'appelles pour un réservé au restaurant. Quel est votre nom?
Normand Marino.
T'appelles à la banque. J'aimerais ouvrir un compte, je m'appelle...
Normand Marino.
Je voudrais avoir un téléphone cellulaire puis un numéro juste pour moi de ça, je m'appelle...
Normand Marino.
Voilà, c'est réglé, merci.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi... votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.